Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et pour évoquer le mouvement des Gilets jaunes, les différentes mobilisations qui ont cours en France actuellement, des lycéens aux transporteurs routiers, bref, cette contestation sociale que l'on voit aujourd'hui se diffuser un peu partout dans notre pays. Un grand historien, Gérard Noiriel, vous avez publié une somme, ça s'intitule « Une histoire populaire de la France ». Ceux qui connaissent l'histoire populaire des États-Unis d'Howard Zinn pourront faire le parallèle. C'est un ouvrage qui vient de sortir, mais c'est vraiment, à mon sens, déjà un classique. Il est publié chez Agone. Et je voulais justement votre regard d'historien du peuple français sur l'événement qui est en cours en France, Gérard Noiriel.
Oui, c'est un événement assez inédit, ça. On peut pas le nier, mais on peut quand même montrer qu'il y a toute une série de constantes dans les formes de révolte populaire, hein, c'est-à-dire dans l'expression à la fois contradictoire, parce que toutes les mouvements, disons, spontanés charrient des choses contradictoires, mais aussi des constantes comme la question qui était initiale, qui était de la taxe, le rapport à l'impôt, par exemple, qui a toujours été un point extrêmement important dans l'histoire de la France. Je le montre dans le livre depuis même l'Ancien Régime.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que la question de l'impôt, elle a été fondamentale, puisque la France, en tant qu'État français, s'est construite à partir du 15e siècle, où il y a l'impôt régulier qui est donc mis en place par le pouvoir royal. Et l'inégalité face à l'impôt, c'est une grande revendication de l'Ancien Régime, puisque les plus riches, les privilégiés, n'en payaient pas. Donc, une des motivations de la Révolution française, c'est bien la question de l'injustice à l'égard de l'impôt. Et il y a, vous savez, dans la Déclaration des droits de l'homme, un article qui dit justement le consentement à l'impôt, c'est fondamental dans
la citoyenneté. Pas de démocratie sans consentement
voilà.
À l'impôt.
Et puis aussi que les citoyens sachent ce qu'on fait de leurs impôts. Et donc le point de départ, même s'il était énoncé, je dirais, par la formule du non aux taxes sur le carburant, qui pouvait apparaître anti-écolo, etc. En fait, ça désignait quelque chose de beaucoup plus vaste par le fait. Et on l'a vu d'ailleurs, progressivement, le mouvement s'est élargi et a abordé des questions beaucoup plus vastes sur la question des injustices, des inégalités sociales.
Le caractère dit hétéroclite, je dis dit hétéroclite, parce que peut-être pour vous, y a-t-il effectivement des choses qui sont finalement plutôt en faveur d'une homogénéité de ce mouvement, Gérard Noiriel.
C'est-à-dire que tout mouvement social, on pourrait remonter à 36 ou au 19e siècle, etc., c'est toujours un processus. C'est-à-dire, au début, le mouvement éclate, il y a des voix divergentes qui s'expriment, etc. Et puis le mouvement évolue, et on ne sait jamais au début ce que va devenir le mouvement. Il y a donc un enjeu majeur aujourd'hui, je dirais pour ceux qui s'intéressent à la vie politique française, de tirer le mouvement aussi dans le bon sens, mais sans être donneur de leçons, etc. Mais parce qu'il y a, voilà, il y a des choses contradictoires, et donc voilà, il y a un fil conducteur qui doit être maintenu sur la question sociale, je pense à la question des inégalités, et freiner peut-être les tendances qu'on peut entendre aussi, je dirais, un peu xénophobe ou autre dans le mouvement. C'est sûr qu'il y a des contradictions aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je pense que voilà, il y a un enjeu aujourd'hui important par rapport à ce mouvement-là, dans la définition et l'orientation du mouvement.
Bon, alors, néanmoins, c'est un mouvement qui se veut apolitique, qui est très différent, par exemple, de mai 68. Mai 68, oui. C'était de la politique pure. Oui. Aujourd'hui, et il n'y a pas de slogan politique. Est-ce que c'est le reflet d'une dépolitisation des temps, selon vous, Gérard Noiriel?
Oui, je pense qu'il y a une mutation considérable dans la structuration même de l'espace public. On est passé de ce qu'on peut appeler d'une démocratie de parti, où les partis politiques étaient autonomes et jouaient un rôle important, à une démocratie du public, où désormais toutes les organisations sont plus ou moins dépendantes des médias, de l'actualité, voilà. Et donc à partir de là, les choses se recomposent autrement. Et je pense que quelque part, on pourrait faire le parallèle entre l'élection de Macron comme président de la République, en dehors aussi des partis, etc., un outsider, et ce mouvement-là qui échappe au cadre habituel. Donc c'est aussi aux organisations de s'adapter. On peut regretter cette évolution ou l'approuver, peu importe, mais les partis, les syndicats, les associations sont nécessaires dans des mouvements comme ça, mais leur rôle doit évoluer.
Leur rôle doit évoluer vers quoi, d'après vous ?
D'être plus à l'écoute, peut-être. Ce qui m'avait frappé dans le mouvement, quand on regardait comme ça qui était sur les ronds-points et qui parlait, c'était quand même la diversité initiale des gens qui prenaient la parole. Il y avait beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes que dans les groupements officiels, la diversité aussi des gens par leur origine, etc. Et cette diversité-là qui caractérise la société française aujourd'hui n'apparaît pas encore assez dans les organisations. Je veux dire, il y a une leçon à tirer de ce mouvement-là, oui. et d'autre part une souplesse aussi pour comprendre, pour être présent dans ces mouvements-là, de façon à rénover aussi les, ce qu'on appelle parfois les corps intermédiaires.
Il y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup de mises en garde contre les violences de samedi. Votre point de vue là aussi d'historien, Gérard Noiriel?
Alors là, vous voyez, un chercheur, il est toujours un petit peu en danger, parce que si on relativise, on va nous dire qu'on cautionne les violences, alors que effectivement, si on replace dans l'histoire de France ce qu'on appelle aujourd'hui les violences, on voit très bien qu'il y a une évolution et qu'on est dans une société beaucoup plus pacifique,
Je veux dire. C'est-à-dire
Si vous prenez les précédents mouvements sociaux, j'entendais par exemple sur une chaîne télévision quelqu'un parler de carnage à propos de ce qui s'est passé dimanche. Il y a eu aucune victime directement par les forces de l'ordre. Il y a eu des dégradations matérielles. C'est pas pour les justifier, mais carnage, ça quand même, ça évoque des choses bien plus violentes, avec beaucoup plus de morts. Même si vous prenez, je sais pas encore, la manifestation des travailleurs algériens le 17 octobre 61, hein, vous avez plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de victimes. Et puis si on remonte dans le temps, eh bien, on se rend compte que les mouvements sociaux ont généré des formes de violence beaucoup plus fortes des deux côté d'ailleurs. Les grandes grèves de 47-48, ça a fait des dizaines de morts et des affrontements beaucoup plus violents.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire finalement, c'est qu'on avait oublié ce que pouvait être une lutte sociale.
Oui, je pense que voilà, la violence, elle est voilà, surtout quand on a affaire à des gens qui se sentent exclus, humiliés, qui n'ont pas de possibilité aussi de s'exprimer via le langage ou via les formes d'art, enfin des formes pacifiques d'expression, forcément la violence physique peut ressurgir, surtout dans des mouvements qui ne sont pas encadrés, où il n'y a pas de discipline, où il n'y a pas eu un travail de politisation, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Donc voilà, et maintenant il faut trouver des moyens aussi d'éviter qu'elle se développe, ça c'est évident.
Alors quelques-unes des figures du mouvement, j'ai du mal d'ailleurs à parler de figures du mouvement, puisque en réalité c'est un mouvement qui n'a pas de meneur, mais en tout cas on sait qu'on a affaire à des nazions ou à des créatures fascistoïdes. Gérard Noiriel, ça c'est indéniable. Pour autant, même si eux, évidemment, ont des visées fascistes, la République est-elle menacée selon vous?
Moi, je ne crois pas que la République soit menacée. C'est-à-dire, ce qui pourrait être menacé, c'est peut-être le gouvernement. Il peut y arriver que, on a vu quand, vous savez, en 80, dans les années 80, Malik Oussekine,
C'était en 1986.
Voilà. Donc, ça avait eu des conséquences très importantes sur le plan politique, mais dans le cadre de la démocratie.
Ça avait soulevé beaucoup d'émoi.
Voilà, c'est ça, voilà. Mais je veux dire, au niveau de la démocratie en tant qu'un système, la République en tant que institutionnellement parlant, je ne vois pas en quoi elle serait menacée. Je veux dire, le problème de la violence légitime, vous savez, Max Weber disait que l'État, ça avait le monopole de la violence légitime. Eh bien, le problème d'aujourd'hui, c'est que un État démocratique doit être capable de maîtriser sa force. C'est un des enjeux aujourd'hui. Jusqu'où peut-on aller dans la répression?
Alors, par ailleurs, en dehors de ça, donc indépendamment de la poignée d'individus qu'on a vus avec, évidemment, là aussi, de noirs dessins, la plupart des gilets jaunes ont un discours qui vous rappelle quelque chose, vous qui êtes historien des luttes populaires, Gérard Noiriel.
Oui, ben moi dans ce que j'entends une diversité de formulations, d'expressions, mais qui sont centrées sur des revendications populaires qui existent depuis très longtemps, c'est-à-dire la lutte contre les injustices, la question économique est très 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 présente, le tous ensemble aussi qu'on retrouve, c'est-à-dire cette sociabilité. Alors l'originalité, c'est une sociabilité de rond-point, je dirais aujourd'hui, et qui est coordonnée par les réseaux sociaux, ça c'est tout à fait inédit. Et puis la question de la dignité qui revient de manière très très forte dans les propos qu'on entend.
Et qui est quelque chose d'important, même si là aussi, alors il y a des tentatives de récupération du mouvement. On voit par exemple la une de Paris Match. Alors Paris Match, de manière tout à fait malencontreuse, a mis en une un gilet jaune qui n'est pas un vrai gilet jaune, puisqu'en fait c'est un révisionniste bien connu de ceux qui s'intéressent au révisionnisme. Ces tentatives de récupération, elles sont classiques, Gérard Noiriel?
Elles sont classiques, mais je dirais que il y a quand même aujourd'hui des formes de nouvelles, c'est-à-dire qui choisit les porte-paroles qu'on voit dans les grandes chaînes de télévision, par exemple. Ça, c'est lié au fait que auparavant, en tout cas depuis le 19e siècle, le mouvement ouvrier avait ses propres leaders, ses propres porte-paroles. Donc ça permettait aussi de canaliser. Alors que là, on a une diversité. Alors à la base, c'est très bien, mais malgré tout, il y a une sélection qui se fait, parce qu'ils ne parlent pas tous à la télé. Alors quels sont ceux qu'on invite. Moi, je pense qu'il faudrait aussi poser la question de cette forme de recrutement qui est pas de l'auto-recrutement, mais qui est un jeu complexe entre les médias et puis les gilets jaunes, etc. Parce que ça, c'est très opaque au fond. On ne sait pas qui décide.
A priori, puisque étant un média ici à France Culture, on sait que, par exemple, le Gilet jaune à qui on a donné la parole était l'un de ceux qui était le plus visible sur les réseaux sociaux. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme réaction par rapport à ça, justement, Gérard Noiriel ?
Alors, donc, ce seraient les réseaux sociaux qui joueraient le rôle, un rôle décisif par rapport au nombre de vues, etc. Donc, c'est une des possibilités. Je ne suis pas certain que ce soit vraiment non plus vraiment démocratique, c'est-à-dire qu'il y a... Mais là, il nous faudra du recul, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un certain nombre de chercheurs en sciences sociales qui vont étudier ça de près, qui vont tirer les leçons. À chaud, c'est quand même difficile de se prononcer en restant sur la réserve qui doit être celle des chercheurs.
Alors, en revanche, le fait qu'il y ait aujourd'hui de plus en plus de voix syndicales, de voix traditionnelles, alors donc ça va de la CGT à la FNSEA aujourd'hui, ça peut contribuer à repolitiser le mouvement. Cette fois-ci, si vous pensez par exemple à mai 68 ou à d'autres luttes où on a eu d'abord affaire à quelque chose qui ne relevait pas des structures classiques, puisque 68 c'était pas au départ des structures classiques, et la manière dont ensuite les cadres traditionnels de la lutte sociale s'en sont emparés, quelles pourraient être les conclusions pour le mouvement qu'on est en train de vivre, Gérard Noiriel ?
Je ne crois pas. En 68, c'était un mouvement d'abord étudiant où les classes populaires l'avaient rejoint. Alors aujourd'hui, ça pourrait être l'inverse, puisqu'on sait que les étudiants, les lycéens sont aujourd'hui mobilisés. Ceci dit, quand même, 68, ce qui a marqué 68, c'est la grève. C'est la plus grande grève de l'histoire de France, donc le blocage de la production. Donc il y a la question économique qui est en jeu. Je veux dire, elle existe dans ce mouvement, puisqu'on sait que le blocage des routes a des effets aussi économiques. Ça, c'est une dimension très importante, y compris pour le pouvoir, parce que ça met en péril les équilibres des comptes économiques, etc. Donc voilà, je pense que de toute façon, il n'y aura pas de possibilité pour les partis politiques de faire une convergence des luttes, comme on dit, classique. Il peut y avoir un accompagnement du mouvement, et puis c'est sur la longue durée aussi. Je ne pense pas que les
choses... Par exemple ?
Je sais pas, ça peut amener aussi, d'une part, à un début de... politique, je crois que ça se fait déjà. D'ailleurs, dans le mouvement, il y a une éducation politique. Il y a des gens qui n'avaient jamais vu un syndicat, jamais participé à la moindre lutte, qui se retrouvent là, à partir de leur propre centre d'intérêt. Et on sait que c'est souvent comme ça que se développe la politisation.
Alors justement, est-ce que les gilets jaunes pourraient devenir une partie d'entre eux, bien entendu, puisque tous ne sont pas sur les mêmes thèmes, mais est-ce qu'une partie d'entre eux pourrait créer un mouvement politique ? Est-ce qu'on a déjà vu ça dans l'histoire de France, Gérard Noiriel ?
Écoutez, je n'ai pas d'exemple où un mouvement parti comme celui-là est spontanément...
Non, parce que ça, c'est vraiment un mouvement inédit, mais une lutte qui débouche sur un parti politique et pas l'inverse.
C'est vrai que ça a déjà existé. On peut dire qu'il y a dans le mouvement ouvrier, effectivement, si même on prend le 19e siècle, les formes de reconstruction du mouvement ouvrier à la fin du 19e siècle, au moment de la révolution industrielle, etc., ont abouti à des formes nouvelles de politisation.
Les révoltes légendaires, je pense par exemple à la révolte des Canuts à Lyon, enfin bref, ce qui est présenté comme étant les premières pages de l'histoire du mouvement ouvrier en France, Gérard Noiriel, comment ça évolue ensuite politiquement ?
Alors pour les Canuts, c'est un peu ambigu parce que certains les classent dans la préhistoire du mouvement ouvrier, parce que c'est quand même un mouvement d'artisans, de
Mais ce qui est le cas aussi sur les ronds-points, parce qu'on voit des auto-entrepreneurs.
Voilà, c'est ça, oui. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on revient, grâce aux réseaux sociaux, on pourrait dire, qui recréent de la proximité. C'est de la fausse proximité, on pourrait dire, parce que les gens sont pas en face à face. Mais on retrouve des formes de lutte.
C'est de la sociabilité, en tout cas.
Oui, c'est de la sociabilité qui rappelle... je dirais, une histoire antérieure au mouvement ouvrier. Parce qu'on a eu donc le mouvement ouvrier à la fin 19e siècle avec de la délégation de pouvoir très forte, surtout dans la version marxiste et après marxiste-léniniste, et médiatisée par de la culture écrite, c'est-à-dire des journaux, voilà, des partis qui avaient leur propre presse, etc. Alors qu'aujourd'hui, les mouvements sociaux, il y a des formes de coordination de l'action qui peuvent passer par les réseaux sociaux, c'est-à-dire indépendamment des structures. Qu'est-ce que ça peut donner ? Je crois que ça peut donner des choses, effectivement, un renouveau du mouvement coopératif. En France, il y a une grande tradition.
Alors ça, il faut rappeler aux auditeurs ce qu'est le mouvement coopératif, qui a eu de grandes heures et de merveilleuses réalisations.
Oui, c'est ça, le 19e siècle, et là on peut faire le lien avec les Canuts, c'était l'idée de bien tous les travailleurs se coopèrent à la production. C'était aussi le grand thème de la grève générale, par exemple, qui était de dire, voilà, on va supprimer le capitalisme en se mettant tous en grève.
Mais alors, il y a une partie de la bourgeoisie qui a rejoint, ou sinon rejoint, en tout cas compris ce mouvement, ce qui a donné lieu à des choses qui sont des choses qu'on peut trouver admirables. On a la possibilité aussi de les rejeter, mais je pense au Familistère de Guise, bref, à ces organisations où il y a une voie française d'adaptation du capitalisme, Gérard Noiriel.
Oui, bah c'est une des tendances du mouvement saint-simonien, hein, qui a donné le deux pôles, c'est-à-dire l'encouragement au capitalisme libéral, mais aussi des formes d'utopie, le communisme, Cabet, etc.
Enfin, voilà, duc de Saint-Simon, bien sûr, mais le comte, c'est-à-dire la possibilité que l'on se dise qu'il y a finalement possibilité de faire société au-delà des conflits de classe.
C'est ça, voilà. Et sans délégation non plus de pouvoir à des chefs qui dirigent tout, voilà. Donc ça, c'est une des tendances. Je pense que c'est une des tendances qui est en train de se développer, même avant le mouvement des Gilets jaunes, on pouvait le voir à différents niveaux. Le problème, c'est qu'on est quand même dans des sociétés qui, par ailleurs, restent structurées par des États très puissants. Donc, on ne peut pas, on ne peut plus être dans une logique utopique comme celle du XIXe siècle, qui s'était développée, je le montre aussi dans le livre, avant ce que j'appelle la nationalisation de la société française, qui date de la Troisième République.
Question difficile, mais vous êtes un grand historien, Gérard Noiriel. Comment la France a-t-elle l'habitude de faire avec ces révoltes pour que la colère s'apaise? Comment ça se passe, vous qui avez écrit cette histoire populaire de la France?
Je dirais que dans l'histoire, très souvent, ça se finit dans le sang. Je veux dire, historiquement, les grandes...
68, ça s'est pas fini dans le sang. Il y a eu un mort.
Voilà.
Mais c'est terrible, mais...
Oui, il y a eu plusieurs morts en 68. Mais 68, disons, il y a aussi une répression importante, mais ça s'est terminé. Je sais pas si on peut dire ça, mais il y a eu les élections de la fin du mois de juin 68 où la majorité silencieuse a voté pour De Gaulle, donc contre les contestataires. Mais le mouvement a perduré après dans les usines, vous savez, jusqu'au milieu des années 70. Donc il y a eu quand même une évolution peut-être moins visible que le mouvement lui-même, mais qui a existé. Autrement, antérieurement, très souvent, ça se terminait par la répression violente. Heureusement, notre société a progressé. Donc aujourd'hui, je crois que il y a un jeu après politique. Le pouvoir compte qu'avec les fêtes de Noël, peut-être, ça va s'estomper. Parce que faut pas non plus exagérer le côté massif de ce mouvement. Quand on voit les gens qui sont sur les ronds-points, enfin, ça a été compté. Il y a jamais eu plus de 200 000 personnes, ce qui est peu, ou 300 000 personnes.
Mais la sympathie semble aller au-delà de ces personnes qui sont aujourd'hui sur les ronds-points.
On voit bien que ce qui compte, c'est l'opinion publique. C'est-à-dire, c'est ça qui inquiète aussi le pouvoir. Et donc, après la dramatisation à laquelle on assiste de façon évidente de la part du gouvernement joue un rôle pour essayer d'effrayer les gens, pour essayer de démobiliser et de faire en sorte que l'opinion se retourne contre les militants des Gilets jaunes.
Merci Gérard Noiriel. Alors comme vous l'avez opportunément rappelé, c'est bientôt Noël et justement un très beau cadeau de Noël, c'est une histoire populaire de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours. C'est un livre récent, je le répète, mais c'est vraiment aujourd'hui un classique avec une vision très singulière qui est la vôtre, Gérard Noiriel, de l'histoire de France qui mérite à mon sens d'être découverte. Tout à l'heure, on va se retrouver en face de deux penseurs de la beauté de la nature. L'un est philosophe, il s'appelle Alexandre Lacroix, et l'autre est une merveilleuse dessinatrice, c'est Catherine Meurice qui publie Les Grands Espaces. Bon réveil à tous, il est 8h sur France Culture. Et on va parler de nature. Évidemment, l'actualité, c'est la COP24. Et pour tenter d'avoir un regard et une parole différente, comme on le fait dans les matins de France Culture, sur cette question de notre rapport à la nature, nous sommes en compagnie d'un philosophe, Alexandre Lacroix. Vous publiez Devant la beauté de la nature, c'est aux éditions Alary, et à côté de vous, une dessinatrice, Catherine Meurice, Les Grands Espaces. Catherine Meurice, c'est une BD autobiographie. Vous avez grandi à la campagne, entourée de pierres, d'arbres, avec un chantier sous les yeux. Dites-nous ce que vous avez cherché à dessiner dans cet album qui est un album d'enfance, pour ainsi dire.
J'avais tout simplement besoin de nature, un grand, grand besoin. C'est ce que je raconte dans les premières pages de l'album, où je me dessine dans un appartement parisien, assez neutre, assez aride. Et je trace avec mon crayon une porte sur le mur. Et cette porte, je l'ouvre et cette porte s'ouvre directement sur les prés, les champs de tournesol. Et par la même occasion, en traversant ce champ de tournesol, je redeviens enfant et le récit sur l'enfance commence. Donc j'avais besoin de chlorophylle, de luxuriance.
On le comprend tout à fait.
Et c'est un plaisir pour un dessinateur, une dessinatrice de dessiner la nature, de revenir un peu comme on pourrait copier l'antique, regarder les peintures classiques, copier la nature, regarder la nature, la dessiner, c'est formidable.
Elle ressemblait à quoi votre enfance naturelle, Catherine Boris?
Mon enfance 100% naturelle, d'abord elle était très minérale parce que j'ai grandi dans une vieille ferme où tout était à faire. Et je me souviens d'abord de la...
Il y a beaucoup de travaux.
Oui.
C'est un peu bricomarché.
C'était une ferme en ruine et je me souviens de la poussière, de la terre, la couleur de la terre, des pierres ridées, absolument magnifiques et tout ce qu'on pouvait trouver dans ces pierres, dans ces tous les jeux que j'ai pu faire avec ma sœur sur ce terrain qui était immense. Et ensuite sont venus les arbres qu'il a fallu regarder pousser, il a fallu du temps, il fallait être patient. Donc c'est un peu une école de la patience, la campagne.
Et alors, vos parents vous disent une très jolie phrase en substance à votre sœur et à vous. Ils vous disent, bon, finalement, on va pas vous léguer grand-chose. Vous n'allez pas hériter de grand-chose. Vous allez hériter d'arbres et de fleurs.
Oui, c'est ma mère qui dit ça. On n'a jamais eu l'idée de vous transmettre un meuble en héritage. En revanche, un rosier, oui. Et il se trouve que les rosiers, chez mes parents qui habitent toujours cette vieille maison, les rosiers viennent de chez leurs grands-parents, de chez leurs parents, viennent aussi de chez Proust. Des boutures ont été dérobées à droite à gauche, à la maison de Georges Sand, chez Montaigne, etc. Donc il y a tout un...
Bouture, c'est le mot que vous entendiez le plus quand vous étiez petit.
Exactement, exactement. Et mes parents constituaient une sorte de nursery où il existe toutes les boutures, toutes les essences qui composent le jardin et le potager de mes parents, de ma maison d'enfance donc, existent en double dans des pots. Et mes parents disent, les valises sont prêtes si jamais vous perdez cette maison comme eux ont perdu leur maison d'enfance, si jamais s'il y a une catastrophe, on va pas reparler des...
Non.
Voilà, mais si jamais... Je parle de la catastrophe écologique.
La nature, Catherine.
Catastrophe écologique. Non, si jamais il se produit quelque chose, voilà, si vous pouvez pas reprendre la maison, au moins... Les bagages sont là, vous pouvez transporter le jardin, transporter le verger, le potager.
Mais vous y connaissez en bouturage? Moi, j'ai toujours trouvé ça très compliqué, les histoires de bouturage, quand on m'explique, les abricotiers, etc.
Vous n'avez pas la main verte, Guillaume.
Alors, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout.
Non, c'est assez simple.
Non, j'aime beaucoup les armes, mais voilà.
La greffe est plus compliquée. La greffe d'armes est plus compliquée.
Vous voyez?
Voilà. Non, j'ai beaucoup observé mes parents. Je ne sais pas si je saurais bouturer ou greffer aussi bien qu'eux, mais en tout cas, je les ai observés. Et c'était important pour eux vraiment cette observation-là. Ils nous ont laissé le temps de regarder, d'observer quand on était gamine. Ouais, c'était important. Ouais.
Ce regard de petite fille sur la nature que vous restituez donc dans cet album Les Grands Espaces, publié chez Dargaud, et le regard des philosophes sur la nature avec une question qui est, je dois dire, une vraie question, Alexandre Lacroix, que vous posez. Vous dites finalement, pourquoi y a-t-il cet émerveillement face à la nature alors que l'on pourrait réserver cet émerveillement, par exemple, aux œuvres d'art?
Oui, c'est-à-dire que si je suis en face d'une œuvre d'art, que j'admire la chapelle Sixtine, par exemple, on voit bien ce que j'admire. J'admire en fait la virtuosité, l'habileté de l'artiste, et puis également la vision du monde, la vision de l'homme qu'il veut me transmettre. Mais en fait, quand je suis face à l'œuvre d'art, je suis en conversation avec l'humain. Et donc, la beauté de l'œuvre d'art est tout à fait compréhensible, mais la beauté de la nature est bien plus mystérieuse. Qu'est-ce qui fait qu'on a des émotions esthétiques devant la nature? Pourquoi l'être humain n'a pas simplement un rapport utilitaire avec la nature? C'est-à-dire, on a besoin de la nature pour se nourrir, elle nous fournit des plantes, des fruits, des matières premières. Mais pourquoi ça va plus loin? Pourquoi les paysages nous émeuvent-ils? C'est une vaste question philosophique, c'est aussi une question philosophique, je dirais, ressentie. Moi, je me suis beaucoup reconnu dans l'album de Catherine, Les Grands Espaces, parce que, en fait...
Vous êtes où dans cet album? La couverture, c'est une toute petite fille qui est perdue.
Je vais vous expliquer, je suis né à Poitiers, en fait, et la campagne dont elle parle, c'est la campagne où j'ai grandi pendant toutes mes vacances. On était dans
la Vienne. Vous êtes du même coin.
On est du même coin, elle parle de l'ouverture du Futuroscope, j'étais là, elle aussi. Mais je dirais que c'est intéressant, ce contact avec la nature. nature-là, parce qu'on parle de la nature depuis le début, mais c'est une campagne effectivement dont le bocage, dont les haies ont été beaucoup abîmées par l'exploitation très intensive des céréales, ce dont elle parle d'ailleurs dans les grands espaces. Et moi j'en parle aussi dans mon livre, dans Devant la beauté de la nature, sur le fait que même dans ces campagnes, on va dire, où il y a une agriculture intensive, où il y a des grandes plaines de céréales, où les haies ont été cassées, les oiseaux sont un peu partis, etc., il y a des poches de merveilleux, en fait. Et c'est vrai que un des regards que je voudrais transmettre au lecteur sur la nature, c'est de savoir s'émerveiller, même quand le cadre ne le permet pas. C'est-à-dire, la beauté de la nature, c'est pas simplement quelque chose qu'on va aller trouver en faisant des voyages très onéreux dans les grandes plaines d'Asie centrale. Hein. C'est quelque chose qu'on peut avoir ici, en venant à France Culture ce matin, à vélo et en regardant la Seine. C'est quelque chose qu'on peut, en fait, c'est un contact qu'on peut renouveler sans cesse. Et donc, ça m'intéresse du point de vue philosophique, ça m'intéresse aussi d'en parler non pas comme d'une expérience aristocratique mais ou coûteuse, mais comme d'une expérience quotidienne et profondément démocratique. Et alors là, c'est vrai que quand on aborde cette question, les philosophes ont été négligents, pour une raison qui tient à l'histoire de la philosophie, c'est que quand l'esthétique est vraiment fondée, au début du 19e siècle, donc Hegel, dans sa chaire à Berlin, a un grand cours d'esthétique monumentale entre 1818 et 1829, et au tout début de ce cours, il dit voilà, l'esthétique est la discipline qui se préoccupe du beau artistique, mais pas du beau naturel. Il ajoute, je ne sais pas si quelque chose comme le beau naturel existe, mais ça m'emmènerait trop loin que d'en parler, et il ajoute encore que l'idée la plus médiocre, la pensée la plus médiocre qui traverse l'esprit d'un humain est plus grande et plus belle que le soleil. C'est du délire.
Ça veut dire que tous les philosophes ne sont pas d'accord là-dessus. Et vous êtes frotté, Catherine Meurice, à la représentation de la nature, puisque c'est une bande dessinée. Comment avez-vous décidé de la dessiner ?
Est-ce que j'ai vraiment décidé ? C'est venu tout naturellement, une fois de plus.
Je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la tête d'une dessinatrice lorsqu'elle se met au travail pour...
C'est l'envie qui dicte, c'est l'instinct qui dicte, comme dirait Marcel Proust, qui en avait pas encore cité celui-là, la réalité intérieure. Non, je me suis appliquée à observer la nature autour de moi, à reproduire celle que j'ai vue, donc gamine, qui en effet a été un petit peu abîmée au cours des années, mais bon, qui est toujours là, comme le disait Alexandre, et on peut encore s'émerveiller devant elle. Et je suis allée voir aussi du côté des peintres, et je fais allusion à un souvenir d'enfance où, quand j'étais gamine, j'ai vécu un grand choc, c'était d'aller au musée du Louvre, parce qu'une fois sortie de mon jardin, de mon potager, cette espèce de bulle très protectrice, le grand voyage a été d'aller à Paris et d'admirer, de rester en émoi devant les peintures qui représentaient la nature. Et je crois que j'avais ce besoin-là de voir la nature représentée par les artistes. Et dans ma bande dessinée, Les Grands Espaces, j'offre les deux regards qui, moi, me nourrissent complètement. Ouais.
Vous avez cité, Alexandre Lacroix, des propos malheureux de philosophes sur la nature. En fait, il y a deux catégories de philosophes. Il y a ceux qui aiment la nature et ceux qui ne l'aiment pas. C'est possible de faire une catégorisation comme cela ?
Je pense que ça commence très mal, l'histoire de la philosophie. Ça commence avec un Socrate qui, dans le Phèdre, alors que donc Phèdre, un jeune homme, l'emmène en dehors des murs de la cité, l'emmène au bord d'une rivière. Le jeune homme Phèdre est tout étonné de la manière dont Socrate marche sur le chemin. Il a l'air déséquilibré, il a l'air de pas savoir où il va. Il lui dit, mais t'as pas l'air d'être de la région, en fait. Pourquoi tu marches comme ça? Et Socrate lui répond, je ne sors jamais de la ville parce que les arbres n'ont rien à m'apprendre. Alors ça, c'est vraiment la posture de Socrate. C'est une posture dominante, qui passe par Hegel et jusqu'à nos jours. La philosophie se préoccupe relativement peu de la beauté de la nature. Certains font exception, heureusement, et c'est sur cela que je m'appuie. En fait, j'ai essayé de collecter la totalité des amoureux de la nature, des pages des philosophes amoureux de la nature dans ce livre qui est un peu volumineux, qui fait presque 500 pages. J'ai voulu faire aussi la somme de ce que les philosophes ont pu en dire. Et ceux qui aiment la nature sont ceux qui pensent que auprès de la nature, on fait l'expérience de l'essentiel. C'est-à-dire, on fait non pas simplement une expérience esthétique toute simple, mais on fait l'expérience, disons, du mystère de l'univers et de la vie. On fait l'expérience de ceux qui comptent vraiment. Et appartiennent à cette catégorie des gens comme Kant, comme des romantiques américains comme Emerson. Et donc, y a une sorte de filiation comme ça des amoureux de la nature, qui est pas du tout majoritaire, qui est minoritaire et qu'il faut
redécouvrir. C'est-à-dire que finalement, parce qu'aujourd'hui, alors là, pour le coup, c'est plus du tout minoritaire parmi les philosophes contemporains dont vous faites partie, d'ailleurs, Alexandre Lacroix. Et lorsque Vous racontez donc cet émerveillement devant la nature, dans « Devant la beauté de la nature » publié chez Alary Éditions. Est-ce qu'il y a un basculement? Peut-être qu'effectivement, ça débute chez les philosophes américains.
Oui, alors mais attention, il y a quand même une chose, c'est qu'aujourd'hui, ce qui vient devant de la scène, c'est l'écologie politique, et le discours dominant de la prise de conscience écologique est un discours qui passe par de l'expertise, c'est-à-dire par des chiffres sur le climat, par la promesse de catastrophes à venir dans un futur très proche, par de la culpabilité, la culpabilisation des lecteurs ou des auditeurs à qui on dit que leur mode de consommer et d'être ne va pas. Or, la voie de l'esthétique, c'est-à-dire la voie de l'émerveillement, la voie de l'admiration, cette voie beaucoup plus contemplative, plus douce, qui part en fait de notre amour profond pour la nature, est quand même moins empruntée. Donc il y a un discours, je suis d'accord avec vous, il y a une sorte de prise de conscience dans le monde intellectuel de l'urgence écologique, mais ça ne va pas forcément de pair avec un réapprentissage du contact avec la nature. Et ce réapprentissage, si vous voulez, à mon sens, il passe également par le fait de d'ouvrir les écoutilles, enfin c'est-à-dire de décrasser ses sens. Nous avons, nous qui en majorité vivons en ville, l'humanité depuis 2008 vit majoritairement en ville, des sens encrassés, c'est-à-dire que nos yeux sont rivés à des écrans lumineux, nous ne savons plus écouter la nature. Je sais pas combien de chants d'oiseaux vous reconnaissez à l'oreille, mais à mon avis assez peu.
Pas beaucoup.
Nous ne respirons pas les odeurs, parce que quand nous sommes en ville, les odeurs, ce sont des odeurs de peau d'échappement, de transpiration des collègues au bureau, et puis de toilettes mal lavées. Enfin, donc on se coupe des sensations olfactives, et donc on a des sens amoindris. Et aller dans la nature, retrouver la voie de l'émerveillement, c'est essayer de décaper un peu ses sens.
Il y a la nature aussi qui console. Bon, je crois, Catherine Meurice, que vous avez travaillé auparavant dans un journal qui a été au cœur de l'actualité. Je ne sais plus trop pourquoi, mais lorsque vous décidez de dessiner les grands espaces après la légèreté, il y a aussi la volonté d'y trouver une vertu consolatrice.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai trouvé dans le livre d'Alexandre cette phrase qui est qu'on ne peut qu'admirer l'ordre de la nature dans un monde constamment menacé par le désordre. Et cet ordre-là, on le trouve dans la nature. Et je crois que après Charlie, je voulais pas le citer, je le cite. Allons-y, je le cite, Charlie Hebdo. Après ce qui s'est passé à Charlie, donc j'ai écrit La Légèreté, qui racontait ma reconstruction à travers les arts et aussi un peu la nature, parce que je me dessinais en train d'enlacer un chêne. Déjà, la nature était là. Je suis allée plus loin dans les grands espaces en retournant vraiment aux sources. Il fallait à la fois retourner au plus près de la nature et aussi à l'enfance, aux racines en quelque sorte. Et alors que j'étais complètement en morceaux en écrivant La Légèreté, j'ai recollé les morceaux en allant observer cet ordre de la nature, et vraiment cette nature m'a aidée, oui, c'est certain. Ouais.
C'est une vraie question, qu'est-ce qui console, et bon, lorsqu'on connaît un drame, quel qu'il soit d'ailleurs, Catherine Meurice, qu'est-ce qui peut donner un artiste une consolation? Quels sont les thèmes? Quelles sont les manières de retrouver une certaine forme de sérénité? Je ne sais pas, peut-être, bon, là, apparemment, il y a le retour vers l'enfance.
Et tout simplement, quand on est, par exemple, face à un arbre, si tant est qu'on prend le temps de l'observer, il y a déjà mille choses à regarder sans qu'on réfléchisse. Déjà ça peut apaiser. Il y a cette harmonie-là qui apaise. Et ensuite, un arbre, par exemple, nous leurre sur notre finitude, en fait. Puisque quand on grandit auprès d'un arbre, on ne voit pas pousser un arbre. On peut s'imaginer qu'on est éternel. Donc on peut éloigner l'idée de la mort et de tout ce qui peut faire peur, par exemple. Et la nature, ensuite, est vraiment l'école de l'humilité. C'est-à-dire qu'elle n'a peut-être rien à nous apprendre. Elle se débrouille sans nous. On lui fait beaucoup de mal. Elle se débrouille. On l'observe. On a, nous, quand même, beaucoup de choses, beaucoup de leçons à tirer d'elle. Elle est constamment en mouvement, en évolution. C'est un spectacle extraordinaire, qui nous émerveille, pour reprendre le mot d'Alexandre.
Ouais. Alexandre Lacroix.
Oui, sur cette fonction consolatrice de la nature, il y a dans l'essai sur l'amour de Stendhal un passage qui est consacré au deuil amoureux. Alors il parle du deuil profond, c'est-à-dire de la séparation douloureuse, et il donne deux conseils pour apaiser ce deuil amoureux. Son premier conseil, c'est de ne surtout pas essayer de courir après l'être aimé, et plutôt d'essayer de boire du champagne en bonne compagnie. Ça, c'est sympathique, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la nature.
Ça peut être parfois plus que sympathique, vous savez, Alexandre.
Oui, c'est vrai. Mais son deuxième conseil, c'est d'essayer d'aller dans de beaux paysages. il conseille au cœur affligé, au cœur triste, au cœur lourd d'aller au devant de beaux paysages. Et c'est vrai que les deuils, les séparations, les chocs traumatiques ou même simplement le stress de la vie urbaine fait qu'on porte en soi une sorte de chaos et que ce chaos ne trouve nulle part où se poser en ville. C'est-à-dire qu'autour de soi, on a de nouveau l'agitation, l'excès d'informations, une sorte de fébrilité. Et le contact avec la nature ou l'admiration pour la nature permet de retrouver un autre rythme. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont on a besoin, je crois, quand on va mal, c'est d'un rythme apaisant. Et en fait, quand on a du chaos en soi, quand on a le ressassement d'idées sombres,
des passions tristes.
Ouais, les passions tristes, le simple fait de pouvoir poser son regard sur un coucher de soleil, une aube, la marée qui monte, en fait, tout d'un coup, nos soucis s'apaisent, on les relativise, on retrouve un lien plus profond, en fait, qui va au-delà de la petite personne qu'on est, entre soi et le monde. C'est un lien plus profond qui va bien en dessous, et on se dit, c'est merveilleux, je suis là, je suis une conscience éveillée, j'admire le monde, et le reste compte finalement moins.
Alors, on a parlé avec vous, Alexandre Lacroix, de la naissance d'une conscience écologiste chez certains philosophes. Vous montrez ça aussi dans votre album Catherine Meurice, parce que, bon, vous ne cachez rien de la nature, y compris, par exemple, l'épandage de sang des abattoirs de la ville sur les champs de maïs, le fait que les paysans ont coupé toutes les haies et les buissons dans leurs champs, les tracteurs qui ont considérablement grossi, il y a tout ça aussi.
Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai vu, gamine, et c'est d'actualité aujourd'hui. Hein, ça n'a pas, malheureusement pas vieilli. Je crois même que ça empire. Et je voulais parler de ça
Ça dépend dans où ça empire parfois.
Oui,
ça se calme
c'est,
aussi.
Non, c'est vrai. Oui. Mais enfin, les agriculteurs bio, etc., sont quand même pas aidés. Enfin, ça, ce serait
non,
un autre
ils
sujet.
Ils sont pas du tout aidés, mais effectivement.
Pas du tout. Bon. Vous évoquiez, enfin, on évoquait Charlie tout à l'heure avant de d'écrire. Enfin, l'idée de faire les grands espaces est venue avant l'attentat contre Charlie. À l'époque, j'avais très envie de régler mes comptes avec cette agriculture qui défigure les paysages de ma propre enfance et même celle de mes parents. Et donc, j'étais partie sur des choses très, très pamphlétaires, très critiques, très, très Charlie.
Oui, qui est un thème,
je me vengeais.
Voilà, la campagne des coquelicots, Nicolino.
Voilà, j'aurais pu demander à Fabrice Nicolino de faire la préface. C'était très vengeur. J'avais envie de distribuer des gifles à tout le monde parce que mon cœur saignait, mon cœur de petite fille ayant vu les ronds-points, les lotissements surgir, était brisé. Charlie, vraiment, l'attentat est arrivé, La légèreté a été publiée, et je voulais que ces thèmes-là de cette campagne, la ruralité, etc., soient présents dans mon album, mais sous l'angle poétique. En fait, je voulais changer d'angle, raconter les choses autrement. Donc, en effet, cette critique, elle est présente dans l'album, mais elle se glisse entre les souvenirs d'enfance plus joyeux. Elle est là, mais elle prend une autre forme plus douce peut-être. Et j'avais besoin de cette douceur que j'associe à la nature, bien sûr.
Parmi les mouvements philosophiques qui sont associés à la nature et qui ont été particulièrement vigilants à l'égard de cette nature, il y a un courant. Alors le mot est très connu, le courant est très peu connu. Mmh. Et finalement, il a une importance folle, on s'en rend peu compte. C'est le courant romantique. Peut-être que vous pourriez, Alexandre Lacroix, nous dire ce qu'est le romantisme en philosophie et aussi en littérature, parce que c'est encore, à mon avis, l'un des mouvements les plus présents aujourd'hui.
Bien sûr, le romantisme, c'est le contre-coup des Lumières, hein, et en fait, on s'aperçoit que, si on regarde ça à belle distance, que au XVIIIe siècle, l'explication religieuse du monde faiblit. L'explication religieuse du monde nous instaurait l'homme dans la nature comme dans une relation triangulaire, c'est-à-dire que la nature était la création de Dieu, l'homme la créature, et puis il y avait le créateur, et dans ce triangle, si vous voulez, la question de la beauté de la nature ne se posait pas vraiment. Ce qu'on aimait dans la nature, c'était l'artefact, l'œuvre d'art divine. Et en fait, quand cette vision religieuse du monde s'affaiblit, une nouvelle sensibilité pour la nature est disponible. L'Europe, l'Occident redevient un petit peu panthéiste, mais les romantiques sont des gens qui vont chercher dans les forêts, dans les montagnes, des émotions qu'on éprouvait autrefois à l'église ou qu'on éprouvait dans le temple protestant. Eh bien, c'est-à-dire que c'est cette possibilité de tutoyer plus grand que soi, vous voyez, c'est-à-dire cette possibilité d'être comme dans une intimité métaphysique avec ce qui nous entoure. C'est ce qu'on allait chercher dans à l'église, au temple, en tout simplement en priant, en ayant une sorte d'adresse au mystère divin. Eh bien, cette façon de ressentir là, c'est exactement celle d'un Goethe, pour prendre un pré-romantique, mais ce sera aussi celle d'un Caspar David Friedrich, on parlait de peinture, en peinture, ce sera évidemment celle d'un Chateaubriand, et puis celle de tous les romantiques après, les Nerval, c'est-à-dire qu'ils vont chercher dans la nature.
Jusqu'au vivant, au pilier qui laisse de confuses paroles.
Voilà, c'est-à-dire qu'on va chercher dans la nature quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion religieuse. C'est vrai que je suis sensible à cette manière de voir, et on aurait pu penser que ce romantisme allait porter pleinement ses fruits en philosophie et qu'une grande philosophie de la nature allait se développer, mais ça n'a pas eu lieu à cause de cet interdit hegélien. Et en fait, cette question de la beauté de la nature n'a ressurgi qu'en 1966. Il faut savoir, et là on va parler d'auteurs qui sont très très peu connus, c'est pour ça que j'y vais à petits pas, mais j'essaye de les faire découvrir dans mon essai. Il y a un Britannique qui est géographe et philosophe qui s'appelle Ronald Hepburn, qui a écrit un article retentissant à l'époque sur l'esthétique contemporaine et l'oubli de la beauté de la nature, où il dit mais à ses collègues, mais écoutez, depuis Hegel, depuis plus de 150 ans, on a complètement délaissé cette question. On n'a, je sais pas combien de traités sur la musique, sur la peinture, mais on n'a rien pour la nature. Et à partir de là, des philosophes se sont mis au travail aux États-Unis, beaucoup au Canada. C'est sans doute lié à la présence des grands espaces, évidemment, et puis en Angleterre. Et ils ont essayé de réfléchir à cette question de la beauté de la nature, alors souvent avec des outils très anglo-américains, c'est-à-dire avec les outils de la théorie de l'évolution, de la biologie, mais aussi parfois avec une réflexion proprement métaphysique.
Remarquez, non, Catherine Meurice.
En effet, je voulais rebondir à propos de la peinture romantique, ou enfin de la littérature romantique, on parlait des écrivains, et Victor Hugo disait en effet un dieu semble vivre en tout. En effet, Dieu s'est barré après les lumières, qu'est-ce qui reste? On va essayer de retrouver Dieu dans la nature, et donc les peintres romantiques vont représenter cette nature naturante, en fait cet infini présent dans la nature, et comment est-ce qu'on se retrouve, comment on se retrouve soi dedans, et je représente moi aussi ces peintures dans les grands espaces.
Mais il y a peu de dessinateurs, et si on remonte quelques siècles après, deux siècles après, et qu'on cherche parmi les dessinateurs contemporains ceux que la nature inspire, dans l'école ou dans le CIA Charlie, je n'en vois pas d'autres que vous, Catherine Meurice, c'est le moins qu'on puisse dire, mais pour le reste, c'est pas aussi clair qui parmi les dessinateurs dessine la nature.
Ah, je citerais volontiers Sempé, qui dessine souvent Paris, mais quand même, on retrouve souvent ces petits personnages dans des paysages immenses, face à la mer, face à un arbre ou dans un parc. Un tout petit personnage va attendre derrière un autre personnage pour respirer une marguerite. Chacun, voilà, on prend un ticket pour respirer une fleur. Donc Sempé pourrait faire partie de ces dessinateurs, et c'est un paradoxe parce qu'il est très 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 citadin. Mais sinon, oui, on va retrouver, enfin, les dessinateurs qui parlent qui évoquent la nature. Je pense plutôt à Gustave Doré, qui a représenté des forêts magnifiques de Charles Perrault, etc. Ou Granville, caricaturiste, qui a dessiné les oiseaux, les fleurs, qui a animé les fleurs, qui les a habillées, oui, c'est peut-être du côté du 19e, on est encore très romantique là.
Et aujourd'hui, alors par contre, des philosophes qui réfléchissent sur la nature, sur la notion de nature, là, Alexandre Lacroix, on peut en citer quelques-uns.
Oui, on peut en citer quelques-uns. Alors dans le champ, moi, qui m'intéresse, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'esthétique de la nature, ça porte même un petit nom, c'est l'esthétique environnementale. Ils doivent une trentaine à produire des articles de recherche, pas de livres, hein, puisque c'est une littérature un peu académique. Ils sont pas traduits, ils sont pas connus. Donc, je dirais qu'ils ont des positions différentes qui s'opposent. Pour certains d'entre eux, si vous voulez, la beauté de la nature, on l'apprécie, c'est un produit de la culture. En fait, c'est la culture qui nous fait aimer la nature. C'est-à-dire, ce sont les œuvres d'art et toutes les représentations de la nature qu'on a autour de nous qui nous aident à aimer la nature. Et donc, en fait, nous avons des représentations, je veux dire, effectivement, des dessins, des peintures, mais aussi bien des photos Instagram, Facebook, des fonds d'écran, des cartes postales, des calendriers. Nous sommes environnés de représentations de la nature et c'est quelque chose comme le modèle de ces représentations que nous irions chercher quand nous sortons des villes. Nous allons chercher la fameuse plage des Bahamas qui est sur notre poster et que nous ne retrouvons jamais aussi belle. Alors ça, c'est une hypothèse, si vous voulez, culturaliste. C'est ce qu'on appelle le modèle culturel en esthétique environnementale. Et puis, il y en a d'autres qui se rassemblent sous une chapelle qui s'appelle l'école du mystère. À vrai dire, c'est ceux qui ont ma préférence et qui considèrent que ce qu'on va rechercher, c'est une expérience plus profonde. C'est ce qui est en filigrane depuis le début, hein, quand on en parle, c'est-à-dire une expérience métaphysique. D'ailleurs, Catherine citait Sempé, mais je pense que c'est un dessinateur métaphysicien au sens où ce qu'il met en scène dans la nature, enfin quand il dessine la nature et ses tout petits personnages, c'est le sublime de Kant. C'est-à-dire c'est ce fait qu'on se sente si petit face à un infini naturel.
Vous aussi d'ailleurs, votre petite fille, elle est toute petite, Catherine Meurice, sur la couverture.
Et oui, Sempé fait partie de mes idoles, hein, comme Cabu et les autres. Mais oui, bien sûr. Et oui, c'était déjà un peu ça sur la couverture de La Légèreté. Mon petit personnage était perdu sur une dune. La couverture est un peu grise. Là, on est dans les verts.
Non, et à la fois, c'est quand même quelque chose d'extrêmement joyeux, de très enfantin. Quels sont les coins de nature qui vous plaisent, qui vous consolent, qui c'est toujours autour de Poitiers?
Dans les Deux-Sèvres, donc pas. Oui, c'est le département de voisin.
Ouais, c'est la Vienne.
Mais moi, j'adore les.
Ah, vous, c'est vous, Poitiers, Alexandre.
C'est la Vienne.
Moi, c'est
Niort.
Je suis née à Niort.
Voilà, donc c'est pas du tout la même mentalité.
Pas du tout. Très différent. Non, moi, j'aime les chemins creux. J'aime les chemins creux où on voit des arbres, des haies, des trognes, comme on dit, des arbres têtards, et où on entend les oiseaux véritablement. Voilà, j'ai un rêve, c'est de connaître tous les chants d'oiseaux.
Et vous, Alexandre Lacroix?
Les paysages qui me fascinent sont souvent liés à... En fait, je n'aime plus les paysages de mon enfance, c'est-à-dire la plaine, et j'ai besoin que ce soit vallonné, des collines. Et je suis parti vivre 7 ans à la campagne après mes études.
Où ça ?
Près de Cluny. Et je reste très attaché au Clunysois, à la Saône-et-Loire, c'est-à-dire à ce paysage de collines, de vignes, parfois de bocages avec des vaches charolaises. C'est mon paysage. C'est un peu plus violent, un peu plus continental du point de vue du climat que l'Ouest. En fait, bizarrement, je me suis arraché à ma sensibilité enfantine pour... adopter la Saône-et-Loire.
Vous pouvez essayer aussi la Drôme, très vallonnée, les Trois Becs, Roche-Colombe.